France Inter, la Terre au carré.
Camille passe au vert et nous emmène à l'aventure.
Nous allons faire un voyage grâce à une découverte extraordinaire aujourd'hui. Elle a fait la une du magazine Science jeudi, qui titre Lost City, la cité perdue. Une sorte de mégapole des temps anciens, entre moins 500 et plus 300 ou plus 600, donc 300 ou 600 de notre ère, qui se cachait jusque-là sous l'ultra-dense forêt amazonienne. Et que l'équipe de l'archéologue Steven Rostin, qui a fait ses toutes premières fouilles et repérages là-bas dans la vallée de Lupano, en Équateur, il y a 28 ans, c'était en 1996, vient donc de révéler, après analyse des données faites au LIDAR, une technique de télédétection laser qui passe à travers la canopée, un peu comme une radiographie du sol, mais sans la couverture végétale. Et là...
Là, j'ai été stupéfait, parce que j'ai été vraiment ahuri, parce que tout ce que j'avais vu partiellement ou de façon très précise au sol, c'est emboîté dans une cartographie globale et j'ai eu un vrai panorama de ce paysage parce que c'est pas quelques sites qui ont été travaillés, c'est toute la vallée qui a été sculptée.
300 km² recréés numériquement sur les 600 passés au radar et certainement beaucoup plus à découvrir encore. Les images sont fascinantes. On voit des routes parallèles et perpendiculaires, un peu comme à New York, creusées dans la terre, ils n'utilisaient pas de pierre, connectées comme une gigantesque toile d'araignée, des monticules, des plateformes. Fermez les yeux et imaginez.
L'élément de base architectural de la vallée Lupano, c'est la place carrée, basse, plate, qui est généralement entourée de plateformes périphériques, un minimum de 4, parfois 6, sur lesquelles certaines de ces plateformes supportent des maisons. Le long de ces plateformes partent des chemins, alors certains descendent à la rivière, d'autres connectent d'autres groupes de monticules, et donc tous ces ensembles, ces complexes, comme on les appelle, constituent une cité qui, parfois, est centralisée par un axe d'une rue beaucoup plus profonde que les autres, parfaitement droite, et qui constitue un peu la colonne vertébrale de la cité, aux extrémités desquelles il y a des très grands monticules, de fonction probablement cérémonielle, en tout cas collective, qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de long et 8-10 mètres de hauteur.
Une quinzaine de cités sont apparues, dont 5 très grandes. On pourrait dire il y a 10 villages et 5 villes. Et ce n'est pas tout. L'étude de Steven Rostin parle de cités-jardins parce que tous les espaces entre les quelques 6000 monticules étaient cultivés avec des systèmes de drainage, un peu comme des rigoles tout autour.
J'ai tendance à dire qu'en Europe, parfois, certains naissent avec une cuillère en argent dans la bouche. En Amazonie, tous les autochtones naissent avec une pelle dans la main. Ce sont des terrassés hors pair, ils savent exactement comment modifier la morphologie de leur territoire pour le rendre utile à leurs besoins divers et variés.
Des terrassiers donc, mais pas que.
Il fallait quand même des ingénieurs pour tracer les routes, des géomètres pour diriger les travaux de terrassement, mais pendant ce temps-là, il fallait nourrir, donc il y avait des paysans. Il fallait bien avoir quelques protéines, mais les mammifères ont sans doute très vite été massacrés. Et donc, il restait la pêche dans la rivière, mais là, il fallait des pêcheurs parce qu'il faut deux bonnes heures pour descendre les 100 mètres de falaise entre les sites et la rivière. Il fallait probablement une autorité, peut-être des prêtres aussi. On faut imaginer une structure quand même un peu complexe de la société, mais on va aussi avancer prudemment là-dessus, mais on aura des réponses.
Ce n'est presque que le début d'une toute nouvelle histoire, celle de cette zone urbaine désormais la plus grande et la plus ancienne jamais découverte en Amazonie, qui prouve, pour le plus grand bonheur de l'archéologue, lancé sur la piste au départ par l'anthropologue Philippe Descola, que l'Amazonie, justement, ne se résume pas qu'à la faune et à la flore. Elle aussi, elle a une diversité ethnique et humaine.
Il y a eu des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui ont côtoyé des sociétés citadines.
Disparues là-bas il y a environ 1500 ans. Qu'a-t-il pu se passer pour ces milliers de personnes dont on ne peut encore estimer la population précisément? Voilà les pistes, notamment celle du volcan Sangay au bout de la vallée.
Sur le sommet de mes niveaux d'occupation, j'avais une couche noire qu'un pédologue avait interprétée comme une couche de cendres volcaniques. Donc j'imaginais un méga blast, une méga éruption qui avait chassé tout le monde. On a fait des prélèvements et des datations de ces couches noires et on a une diversité de dates qui ne plaident pas en faveur d'un seul mégablast. Et donc, ça affaiblit un peu cette interprétation de la catastrophe volcanique. L'autre explication qu'on pourrait aussi penser, c'est que cette civilisation a tellement grossi qu'elle s'est écroulée, comme ça arrive. Regardez, c'est arrivé à Rome, c'est arrivé à l'Égypte, et c'est en train de nous arriver. Au bout d'un moment, les sociétés implosent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de 600, il n'y a plus aucune date culturelle. Jusqu'à 800, il n'y a plus personne dans la vallée, ou très peu de monde.
Il reste des années de recherche, en tout cas l'archéologue ne l'avait pas vraiment vu venir.
C'est l'ampleur du phénomène que je n'avais pas soupçonné à ce point-là. On arrive à tirer des enseignements, des traces d'activités passées assez stupéfiantes. Je ne m'attendais pas à ce que le paysage soit si bavard.
Voilà, écoutez le paysage pour qu'émerge donc un Eldorado scientifique et un peu magique aussi.
Et c'était une rediffusion de la chronique de Camille Cronier datée du 16 janvier dernier.